Qui est d'accord? On peut prier ensemble? Alléluia, Papa. Eh bien, merci beaucoup de tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de ta présence ce matin. Je te demande vraiment ta grâce. Je demande que tu nous conduises vraiment. Et merci de ce que tu as avec nous. Amen. Je suis vraiment reconnaissant de ce que Dieu a pu faire ce matin. Parce qu'avant de parler de ce que j'avais à apporter, je voulais vraiment nous encourager et dire que combien nous sommes précieux pour Dieu, combien nous comptons. Je me rappelle les quatre piliers que Rusty avait apportés, vous rappelez, les piliers du royaume. Le premier, Dieu est de bonne humeur avec moi. Il danse de joie même, hein, la parole nous le dit dans Sophonie, Dieu danse de joie, il habite au milieu de toi et il se réjouit de toi. Dieu est de bonne humeur envers toi. Le deuxième, non, on va pas commencer par celui-là. Jésus a tout accompli, il a gagné la victoire totalement. Jésus est pour toi, c'est lui qui t'a racheté et c'est lui qui s'est donné pour toi. Le troisième, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à l'Esprit qui habite en toi. Hein? Le Père t'a aimé à tel point qu'il a donné son Fils. Le Fils t'a aimé à tel point qu'il a donné sa vie. Et l'Esprit t'a aimé à tel point qu'il est venu habiter en toi. Le Père se réjouit à ton sujet. Il danse de joie pour toi. Le Fils est ton frère bien-aimé, ton grand frère. Et il est aussi ton époux qui t'attend. Il est celui qui t'aime et il est ton sauveur et ton Seigneur, celui qui t'a tant aimé. L'Esprit est celui qui marche avec toi, qui habite en toi et qui fait que rien n'est impossible pour toi. Toute la Trinité est avec toi. Ce matin, quand on priait, il y avait un mot qui m'est venu. Et comme si le Seigneur disait, je m'appelle toujours présent. C'est mon nom. Je m'appelle toujours présent. Toujours là. Je suis toujours là, toujours avec toi. Et le dernier, et je ne dirais pas que c'est le moindre, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit sont trois, mais ils ont décidé de s'ouvrir et de s'agrandir. Et tu es né dans la famille. Tu fais partie de la famille, tu fais partie du Dieu vivant. Amen. Tu n'es pas moindre, tu n'es pas inférieur, tu n'es pas en dessous, tu es avec, à côté. Le mot qui me revient, c'est dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai une aide semblable à lui. Et quel est le premier homme? C'est Adam. Quel est le second homme? C'est Jésus. Il n'est pas bon que Jésus soit seul. Je ferai une aide semblable à lui, un vis-à-vis, quelqu'un à côté. Il n'était pas bon que Jésus reste seul. Il fallait que le second Adam, le second homme, soit accompagné et bien accompagné. Amen. Il sera bien accompagné. Qui c'est qui va l'accompagner? Nous, nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes les bien-aimés et nous sommes à la hauteur. Tu es à la hauteur. Tout nous dit que non. Tout nous dit qu'on est inférieur, qu'on est en dessous. Et le papa nous dit, tu es à la hauteur. Pourquoi? C'est pas toi qui l'as fait, ça vient de moi. C'est moi le seul responsable ici. C'est moi qui l'ai fait. Et je n'échouerai pas. Je discutais, j'ai encore une autre chose à partager avant de commencer. Vous savez qu'il y a deux peuples pour Dieu. Vito, il partageait par rapport à la sainteté, moi j'avais juste ça aussi avant. Nous sommes un peuple saint pour Dieu. Tu es un peuple saint. Et Dieu a deux peuples. Un peuple physique, né de la semence d'Abraham. C'est la descendance d'Abraham, c'est le peuple physique. Un peuple réel avec qui le Père a une alliance. Et il a un peuple spirituel. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Israélites pour être Israélites? Je vous le demande. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont nés tout simplement. Ils n'ont rien fait, ils y sont pour rien. Ils sont entrés dans une alliance qui leur est tombée dessus, qu'ils n'ont presque pas choisie, et ils ne devaient plus qu'à y marcher. Et alors je partageais ça avec quelqu'un, je disais, mais c'est la même chose pour l'Église. Il disait, mais non, l'Église, c'est pas pareil du tout. Et pourtant, quelle est la différence? Tu es entré dans une alliance que tu n'as pas préparée. Tu as été aimé d'un Dieu que tu n'avais pas cherché. On t'a offert une nouvelle naissance que tu n'avais pas préparée. Tu n'avais juste à y rentrer. Tout a été préparé pour toi. La gloire de Dieu t'appartient de la même façon que l'alliance de Dieu appartient à chaque Israélite qui est né. Il a juste le choix d'y marcher ou de ne pas y marcher. Mais c'est à lui. De la même façon, la gloire de Dieu, les promesses pour l'Église, le fait que tu es bien aimé et la réussite que Dieu t'offre dans ta vie, c'est à toi, tout simplement, de la même façon, tu es né. Tu es né, quand tu as dit oui, tu es né. Et tu appartiens à ce royaume. Il est à toi et tu y découvres. Tu y marches, tu avances. Tu avances dans le royaume et tu dis oh, « Ah, il y avait encore ça, je ne savais pas. Ah, c'est à moi aussi, waouh. » Puis tu fais un autre pas. Oh, quelque chose de tout nouveau, c'est à moi aussi, je ne savais pas. Et tout s'élargit sous tes pas. Ça t'appartient, c'est à toi. Voilà. C'est une chose que je voulais que ce soit bien établi avant de continuer dans ce que j'avais à dire. Et pour continuer, j'aimerais qu'on fasse des groupes, s'il vous plaît. J'ai besoin que vous vous mettiez en groupe. J'ai besoin que vous bougiez un tout petit peu là. Parce qu'on est assis tout au fond. Et je crois vraiment, si vous pouviez faire des cercles, par exemple de 8 à 10 personnes, un petit peut-être un là, il pourrait y en avoir un ici, il pourrait y en avoir un là, et un là, à peu près. Si vous voulez bien vous mettre, bouger vos chaises, vous mettre un petit cercle. Bon, vous pouvez prendre les chaises et vous pouvez les mettre par terre si vous avez envie. Sentez-vous libre. Un là, un là. Voilà. Ça y est, super. Vous êtes super. Merci. Donc si vous ne connaissez pas dans les groupes, je vous propose que vous disiez rapidement votre prénom en un dixième de seconde, comme ça on se connaît un tout petit peu. Voilà. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Alors je vais prendre dans Matthieu 5. Qu'est-ce qu'il y a dans Matthieu 5 ? Les béatitudes. Vous connaissez tous les béatitudes. Et si on prenait les béatitudes dans Luc 6 pour changer ? On va changer, au lieu de prendre les béatitudes dans Matthieu 5, on les prend dans Luc 6. C'est dans le verset 20. Alors Jésus, regardant ses disciples, dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. » Donc aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Église persécutée. Hein. Donc on a cherché à partager un peu là-dessus, à se joindre à ce mouvement en France et dans d'autres nations pour soutenir nos frères et sœurs. Et voilà, donc ici il parle de quatre heureux. Et il dit à la fin, heureux, vous qui êtes persécutés. Si on reprenait dans Matthieu 5, hein, il dit beaucoup plus de choses par rapport aux persécutés, je n'ai pas lu, je voulais aller un peu plus vite. Vous avez noté qu'il y a heureux vous qui êtes pauvres, vous qui avez faim, vous qui pleurez, et quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront ou vous tueront, on peut le dire aussi. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie. Bizarre. Est-ce que ça vous paraît normal ? Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront ? Est-ce qu'on est heureux quand les hommes nous haïssent ? Heureux seras-tu quand on te rejettera ? Est-ce que tu es heureux quand on te rejette ? Quand on t'insultera ? Quand on te chassera ? En t'accusant de toutes choses, de choses folles et fausses, à cause de mon nom. À cause de mon nom. Pour le dire à un autre endroit, qu'on ne t'accuse pas, qu'on ne te rejette pas, à cause des choses mauvaises que toi t'aurais faites. Mais si on te rejette à cause du nom du Fils de Dieu, heureux es-tu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, d'être rejeté à cause du nom du Fils de Dieu ? Quand cela arrivera, réjouissez-vous. C'est Jésus qui parle. Et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs pères ont traité les prophètes. Amen. Et alors, je vais continuer. Mais alors, attention, dans les béatitudes, il y a une bizarrerie. Malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Malheur à vous qui maintenant avez tout à satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que les ancêtres, que leurs pères, ont traité les faux prophètes. Dans des béatitudes, il y avait des malheurs à vous. Et c'est à peine si j'osais lire le texte ce matin. Je me disais, Seigneur, j'en ai jamais entendu parler quasiment. Je ne me rappelais plus que tu avais dit malheur à vous, quelque part. Et quelque part, Seigneur, moi j'ai l'impression que j'y suis presque. Vous qui avez des richesses, vous qui avez tout à satiété, vous qui riez, et quand tous les hommes diront du bien de vous. Est-ce que le Seigneur critique la richesse? Je ne pense pas. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il critique le fait qu'on mange? Non plus. Est-ce qu'il critique le fait qu'on rit? Il est le Dieu de la joie. Est-ce qu'il critique le fait qu'on ait une bonne renommée? Non, c'est un des critères pour les anciens, qu'ils soient pour le peuple de Dieu, qu'ils aient une bonne renommée. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par ce passage? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur veut dire, si tu as tout ça, mais que tu ne t'occupes pas de ceux qui ne l'ont pas, tu es face à un problème. Et tu attires comme un malheur sur ta vie. Et si on raisonnait non seulement, plus seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'Église, Église, tu as tout, tu as des richesses, tu as l'enseignement, tu as à manger, tu as le rire, tu es bien vu. Église, tu as tout. Est-ce que tu réalises qu'il y a peut-être des églises qui n'ont pas tout ça? Si tu ne le réalises pas et si tu vis comme si ça suffisait et que tu n'as pas besoin de t'occuper des autres, tu attires peut-être un malheur sur toi. Et si on raisonne en tant que nation, nation, tu as des richesses, tu as à manger, tu peux être dans la joie, tu as tout à satiété et tu es bien vu des autres peuples. Mais si tu ne t'occupes pas des autres nations, tu attires peut-être un malheur sur toi. Regardez dans Jacques 5, verset 1. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches. Pleurez, lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie. Vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent est corrodé, pourri. Cette corrosion va témoigner contre vous. Elle va dévorer votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Et cela, ça monte vers moi comme des cris. Cette injustice crie contre vous. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous vous rappelez qu'on avait dit la dernière fois que si on aide les pauvres, et si on vient au secours de ceux qui ont faim et qui crient à Dieu, il y a des prières de louange qui montent vers le Père et des prières de bénédiction qui viennent vers vous. Et on avait dit aussi, c'est un verset qui confirme, mais si on n'agit pas en faveur de ceux qui ont faim, en faveur de ceux qui ont soif, en faveur de ceux qui sont pauvres, il y a des cris et des clameurs qui montent vers le Père, vers le Seigneur des armées, et il les entend. Amen. Ça veut dire que le Seigneur va réagir. Et ça veut dire que s'il y a des cris et des clameurs qui montent vers le Père, c'est comme des malédictions et des malheurs à nous qui viennent sur nous. Qui sont peut-être sur nous parce que maintenant notre pays a exploité aussi lui des pays. On s'est enrichi en tant que pays peut-être sur le dos des autres, sur le dos d'autres nations. Je ne vais pas faire de la politique, mais on doit juste en être conscient. Il y a peut-être, rien qu'à cause des ventes d'armes, rien qu'à cause de l'exploitation des richesses minières et bien d'autres choses, il y a peut-être une richesse de notre nation et qui est peut-être la nôtre aujourd'hui, qui vient peut-être de là. Et on doit en être conscient. Et on doit être conscient que peut-être il y a des gens dans d'autres pays qui crient contre nous en tant que nation. Il y a peut-être des gens qui crient contre nous en tant qu'Église à cause de ça. Et on doit le savoir. Et ça a été le premier temps. C'est pour ça que je vous ai réunis en groupe. J'aimerais que dans chacun des groupes, on puisse simplement venir devant Dieu et demander pardon en tant qu'individu, en tant qu'Église, en tant que pays. Si vous êtes d'accord, pour les fois où on s'est enrichi sur le dos des autres, où on n'a pas cherché, où on s'est contenté de notre emploi, ou de notre salaire, ou de la vie confortable qu'on avait, Il n'y a aucune accusation, c'est clair, hein ? Le Seigneur nous a bien établi avant dans qui on est, dans notre position de l'amour qu'il a pour nous. Et en même temps, on est conscient et on est co-ouvrier. Et en tant que co-ouvrier, si on voit que dans le champ, il y a des ronces et il y a des choses qui ne vont pas, on est appelé à enlever ces ronces. Et je pense que là, c'est simplement un petit temps rapide, on n'a pas beaucoup de temps, mais simplement un temps de repentance pour dire, Seigneur, on reconnaît qu'il y a peut-être une malédiction sur nous, qu'il y a peut-être des malheurs à nous qui traînent quelque part à cause de ces choses. Et on veut demander pardon. On veut s'humilier. On veut simplement, Seigneur, que tu touches nos vies, que tu nous libères de toute malédiction, de toute accusation, et on veut te dire nous voici pour aller plus loin avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez cette démarche? Amen. Ça n'a pas besoin d'être long. C'est simplement pouvoir parler avec le Seigneur les uns devant les autres, parce que je crois que c'est quelque chose d'important. Donc je donne vraiment ça que quelques petites minutes à chaque groupe, simplement, pour qu'on puisse faire cela. Alléluia, papa. Seigneur Jésus, merci parce que tu as aimé ton Église et tu veux vraiment qu'elle soit bénie. Tu veux que ton Église soit bénie. Tu bénis ton Église. Et Seigneur, merci parce que tu veux libérer ton Église de tout joug de malédiction. Et merci parce que tu veux la délivrer en partie de ce joug, en particulier de ce joug des cris qui monteraient contre l'Église. Et Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où l'Église n'a pas agi comme elle aurait dû, elle n'a pas aimé comme elle aurait dû. Elle n'a pas répondu à ton appel, on te demande pardon. On te demande vraiment de nous délivrer, de nous libérer maintenant, de nous délier, Seigneur, et nous donner vraiment d'aller et d'accomplir les choses que tu nous demandes. On te demande pardon en tant que pays, en tant que nation, pour toutes les fois où elle s'est enrichie sur le dos d'autres nations. Pour toutes les fois, Seigneur, où elle a cherché son bien-être à elle, sa richesse à elle, et qu'elle ne s'est pas occupée des autres, où elle a considéré les autres comme étant de moindre valeur. On te demande pardon. Pardon pour toutes les nations qui pleurent et qui souffrent, et toutes les familles qui souffrent peut-être à cause de nos propres erreurs. On te demande pardon. On te demande de délier notre pays, de lui pardonner, de lui faire grâce. Seigneur, au nom de Jésus, parce qu'on croit que tu aimes notre pays, parce qu'on croit que tu veux le bénir, que tu veux le délier de la malédiction, et que tu veux proclamer la bénédiction sur notre nation, parce que tu as de grands projets pour la France. Et Seigneur, vraiment, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Deuxième point, je pense qu'on est conscients tous que nous devons aider nos frères et sœurs dans les nations. Le Seigneur, il voit devant lui l'Église des nations. Il nous voit, nous, en tant qu'Église locale, et il voit l'Église des nations. Elle est devant lui, il la connaît et il l'aime. Et souvent, on dit, les persécutions... On risque la persécution. Et le Seigneur dit, mais mon Église, elle connaît la persécution. Elle est en plein dedans. Elle est déjà dans la persécution. Et simplement, il y en a qui la vivent et d'autres qui ne la vivent pas. Et même dans les pays persécutés, il y a des gens qui vivent la persécution et d'autres qui ne la vivent pas. Simplement, on doit être conscient et on doit avoir sur nos cœurs le fait que le Seigneur a dit, si un membre du corps souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et on doit demander pardon si on n'a pas, parce que si toutes les fois on n'a pas réalisé qu'on n'a pas souffert, parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Et que le Seigneur veut que les membres souffrent tous ensemble, qu'ils soient capables de se porter les uns les autres, que les nerfs aillent d'un membre à l'autre. Qu'est-ce qui fait que des membres souffrent, même s'ils n'ont pas la douleur? C'est parce que le nerf du membre qui souffre est monté jusqu'à la tête, et que la tête, elle ressent tout, et qu'elle le fait connaître à tout le corps. Et la tête, elle souffre quand le corps souffre. Regardez dans Actes 9, 4. C'est l'histoire quand Paul, il est sur le chemin de Damas. C'était un grand persécuteur. Il a dit, je respirais la haine contre l'Église. Je respirais la haine. Il vivait que plus que pour la haine et la destruction de l'Église. Et l'Église, elle fait face à cette respiration haineuse. Il y a des respirations haineuses contre l'Église. Des gens qui respirent la mort contre les chrétiens. Et cet homme, qui était un des plus terribles que le monde ait connu contre l'Église, il fait une rencontre avec Dieu. Vous savez qu'il tombe de son cheval, il voit une lumière et le Seigneur lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi me persécutes-tu ? » Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la tête avait senti les douleurs du corps et qu'elle avait mal. Christ souffrait de la douleur de son Église. Il se sentait persécuté parce que ses enfants étaient persécutés. Et aujourd'hui, le Seigneur se sent persécuté. Et si la tête se sent persécutée, elle dit, mais tout mon corps, tu es appelé à sentir ma souffrance. Tu es appelé à sentir ma peine. Et donc, nous sommes appelés à ressentir la peine. Nous sommes appelés à pleurer avec ceux qui pleurent. Nous sommes appelés à partager la souffrance des autres. La parole tout entier, là, tout le Nouveau Testament dit, aimez-vous les uns les autres. Les uns et les autres, ils sont peut-être à côté. Ils sont peut-être dans la ville à côté, ils sont peut-être dans l'église d'à côté, et ils sont peut-être dans le pays d'à côté, et ils sont peut-être dans le pays de l'autre côté. Et nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. C'est l'appel ultime. Nous aimer les uns les autres. Comment ? Ça peut être la prière, ça peut être l'engagement personnel en soutenant des œuvres qui agissent dans ces domaines. Il y a des voyages possibles. Tous les chrétiens persécutés disent, si simplement on sait qu'on n'est pas oublié. Ils ont besoin de savoir qu'on se souvient d'eux. Ça peut y être en y allant, ça peut être en écrivant. Il y a plusieurs actions possibles. À nous de voir qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons recevoir le fardeau et voir quel est le pas que Dieu nous demande. Mais je pense qu'avant d'agir, il y a une chose qui doit être claire dans nos têtes. Et l'Église persécutée nous le dirait. C'est que nous sommes appelés à être prêts à vivre nous-mêmes la persécution. Si nous ne sommes pas prêts, nous ne pourrons pas les comprendre, nous ne pourrons pas les aimer et nous ne pourrons pas prier pour eux. Parce que notre cœur n'a pas réalisé que c'est normal quelque part, que c'est ce que Dieu a dit et que simplement ils y sont. Ils sont dans la guerre, ils sont face à la respiration haineuse et nous devons être à leur côté en soutenant ce combat. Ce n'est pas nécessairement les extraire du combat. Souvent, les chrétiens de ces pays disent « on ne veut pas partir de là où on est. On veut y être. On veut rester au milieu de la persécution. Parce qu'on veut que le message de l'Évangile soit répandu autour de nous. On veut qu'il y ait des âmes qui doivent être sauvées. Il n'est pas question pour nous de partir. Il y en a qui partent et c'est bon. Le Seigneur, il n'y a rien contre eux. Le Seigneur bénit cela et le Seigneur bénit ceux qui restent. Ils simplement disent « aidez-nous ». Et nous devons être avec eux dans leur combat, là où ils sont. Et il y en a qui restent, qui ne veulent pas rester. Il y en a qui n'ont pas le choix. Et on doit être avec eux dans ce combat. Dans toutes les situations, on doit chercher à être là. C'est notre rôle et notre appel en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Et si on regarde un peu différents passages qui parlent par rapport à cette souffrance à cause de l'Évangile ou la persécution, on voit que c'est quelque chose de normal. Dans 2 Timothée 3:12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Jean 15:20, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. 2 Corinthiens 12:10, Paul dit, je me plais dans les persécutions. 1 Pierre 5:9, résistez au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donatienne nous parlait de résister ce matin. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances, tu as peut-être des souffrances dans ta vie, ne les néglige pas. Ne dis pas, ce n'est rien, c'est quelque chose que l'ennemi fait contre toi parce qu'il veut ta perte. C'est quelque chose que Dieu connaît, c'est quelque chose qui fait ta gloire, et c'est quelque chose que d'autres frères dans le monde partagent d'une manière ou d'une autre. On doit le savoir. 1 Pierre 2:20, si vous supportez les souffrances, c'est une grâce. 2 Timothée 1:8, souffre avec moi, pour l'Évangile. 2 Timothée 4:5, supporte les souffrances. Apocalypse 2:10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Jacques 5:11, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert. Jacques 1:1, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. L'épreuve n'est pas étonnante. La souffrance n'est pas une bizarrerie. La persécution n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On ne comprend pas pourquoi elle existe, mais on sait qu'elle doit exister. On sait qu'elle est là. Et maintenant, c'est nous, quelle est notre réaction? Premièrement, on doit savoir dans notre vie qu'on est prêt à le vivre, prêt à être persécuté, prêt à ce qu'on demande des comptes à notre foi. Des fois, les chrétiens, ils disent, vous, qu'avez-vous souffert pour le nom de Jésus? Eux, ils restent sur place, prêts à mourir pour le nom de Jésus, pour qu'il soit connu. Et là, ici, il suffit qu'il montre une Bible, il peut être tué. Et il va la montrer, sa Bible. Je me rappelle, j'ai un témoignage qui m'a marqué. C'était une jeune fille qui était au Seigneur, qui était chrétienne. Et elle avait une amie qui était très proche, mais qui ne savait pas qu'elle était chrétienne. Et cette amie, elle voyait chez cette jeune fille qu'il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas. Et à un moment donné, elle a dit, « Mais je veux que tu me donnes ce que tu as. Dis-moi ce que tu as. » Et cette fille a dit, « Je ne peux pas te le donner parce que si je te le donne, il y va de ta vie. » Et je crois que c'est pendant 2 ans qu'elle a résisté, elle n'a pas voulu lui dire. Et c'est cette fille, finalement, à force de lui demander, elle lui a dit, et cette jeune fille lui a dit, « C'est parce que je crois en Jésus. » Et cette fille, elle s'est convertie, elle a reçu le Seigneur, et quelques jours après, elle a été tuée. Et ça me dit qu'il suffit de témoigner, il y a des pays où on n'ose même pas témoigner, parce qu'on sait que ceux à qui tu vas témoigner risquent leur vie. Il y a des pays où si tu crois au Seigneur, tes enfants te sont enlevés. Ils sont enlevés dans la foi, élevés dans la foi islamique. Parce que le thème aujourd'hui, c'est particulièrement les chrétiens de l'ombre, ça veut dire ceux qui sont convertis de l'islam. Il y a des enfants qui sont enlevés à leur famille. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents. La persécution est terrible parce que ce n'est pas seulement je souffre pour Christ, mais il y a des gens qui ont abandonné la foi et qui sont perdus pour l'éternité à cause de ça. Et il y a des enfants qui sont élevés contre la foi chrétienne de leurs parents à cause de ça. Il y a des régions entières qui sont passées sous régime islamique, et ça veut dire qu'ils ne pourront pas entendre parler de la foi à cause de ça. Donc il y a des régions entières qui sont perdues pour Christ à cause de ça, à cause des persécutions. Donc la persécution est quelque chose qui est normal et qui existe, le Seigneur nous a avertis, mais il nous avertit aussi que nous avons un combat à mener contre ça. Nous devons agir. On ne peut pas se dire simplement « c'est quelque chose qui existe, c'est normal ». On ne peut pas non plus se dire « moi je ne le vis pas, tout va bien ». On est appelé à agir et à savoir comment Dieu nous demande d'agir. Il y a des œuvres qui agissent dans ce sens-là. Je pense que c'est un des rôles primordiaux de l'Église de les soutenir. Et c'est un rôle que nous avons de vraiment même déjà commencer à prier. J'aimerais vous proposer en tant que groupe de prier. Donc en étant prêt avec ça, avec ce que je viens de dire, en étant conscient que la persécution peut venir chez nous. Je sais qu'en ce moment à Strasbourg, il y a des tracts qui circulent parce qu'ils veulent mettre des minarets à Strasbourg. Il y a des gens déjà dans notre pays qui n'osent pas dire qu'ils sont chrétiens alors qu'ils étaient musulmans avant, parce qu'ils déjà eux pour être poursuivis. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu sur Antenne 2, il y avait un complément d'enquête, un document magnifique qui est vraiment très pertinent par rapport à ce sujet, où il montre qu'il y a beaucoup de musulmans qui se sont convertis mais qui ne pouvaient pas passer à la télé parce que sinon ils savaient qu'ils auraient couru de graves problèmes déjà dans notre pays. Souvent aussi dans ces pays-là, il y a des églises qui existent, des églises d'expatriés, ça veut dire des gens qui viennent travailler dans le pays ou qui viennent habiter là, ou des églises établies depuis des siècles, qu'ils soient catholiques ou maronites, mais ces églises, elles n'ont jamais le droit de parler de Jésus. Et elles ont encore moins le droit d'accueillir un musulman qui se serait converti. Il courrait de graves dangers même de mort. Donc il est hors de question pour eux de les soutenir. Donc ça veut dire que ces chrétiens-là n'ont aucun soutien dans les pays où ils habitent. Ils doivent tout abandonner, ils perdent tout. Et bien en France, ça existe déjà. Dans le documentaire, il y avait un catholique qui disait « mais on ne peut pas les aider parce que sinon on va avoir des problèmes avec la communauté musulmane ». Donc on doit savoir que ça commence à venir ici. Est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir peur? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas aimer les musulmans? Encore moins. Dieu nous appelle à aimer les musulmans. Pourquoi? Parce qu'il les aime à fond. Il les aime comme il nous aime. Ils sont la prunelle de ses yeux comme nous le sommes. Ils sont aimés comme nous sommes aimés. Le Fils de Dieu est mort pour eux comme il est mort pour nous. C'est pareil pour Dieu. Dieu les cherche. Au milieu d'eux, il y a des chrétiens magnifiques. Il y en a qui sont devenus nos frères et nos sœurs et qui peuvent nous apprendre. Et nous avons des frères et des sœurs qui nous attendent dans la communauté musulmane en France. Hein, Shafika, tu es d'accord avec moi? Si tu as quelque chose à dire, tu peux. Je pense que nous devons nous réveiller en tant qu'Église à ce qui se passe dans notre pays et ce qui se passe dans les nations. On a un appel. C'est un appel glorieux parce que le Seigneur veut faire des disciples au milieu des musulmans et ils seront des chrétiens magnifiques. Il y aura des églises magnifiques. Amen. Et nous sommes là pour aider à cette naissance. Donc je propose simplement, je vais vous donner distribuer des feuilles dans chaque groupe. Donc soit vous priez librement, soit vous priez par rapport aux sujets qui sont là, vous êtes libres. Merci. Donc je pense qu'il y a des... J'en parlerai tout à l'heure, je vous laisse simplement commencer à prier. Rappelons-nous qu'il y a des... Si un musulman se convertit, il perd son emploi. Il perd tout soutien familial parce que la famille le rejette. Des fois, c'est beaucoup plus la famille qui persécute et qui vont jusqu'à tuer les convertis, beaucoup plus même encore que les gouvernements. Ça dépend des pays. Rappelons-nous qu'ils sont seuls, qu'ils n'ont plus rien. Rappelons-nous qu'ils n'ont plus même de temple parce qu'ils allaient à la mosquée, ils aimaient prier, les musulmans aiment prier. Ils aiment se retrouver ensemble pour prier et là, ils n'ont même plus de temple. Ils n'ont plus de communion fraternelle avec d'autres, ils sont seuls. Rappelons-nous qu'ils peuvent perdre leurs enfants. Rappelons-nous qu'il y a des enfants qui crient en ce moment parce qu'ils n'ont pas leurs parents. Rappelons-nous qu'il y a des enfants qui ont été kidnappés, qui ont été enlevés pour être élevés dans la foi musulmane. Rappelons-nous qu'il y a des femmes qui sont mariées de force à des musulmans pour être obligées de suivre la foi musulmane. Rappelons-nous toutes ces choses. Je pense que beaucoup, vous le savez la plupart, hein. Simplement, rappelons-nous et prions ensemble. Alléluia, Jésus. Rappelons-nous en priant que nous sommes appelés à être prêts à souffrir nous-mêmes pour le nom de Jésus. Il y en a qui ont juste passé peut-être avant nous et qui nous soutiendront peut-être quand nous souffrirons. Seigneur, en particulier, je veux aussi te prier vraiment pour les musulmans qui se sont convertis dans notre pays. Pardon, parce qu'ils ont senti du rejet souvent. Prions vraiment qu'il y ait un accueil dans nos églises pour ces musulmans qui se convertissent. Qu'ils sentent l'amour, qu'ils sentent la chaleur humaine, qu'ils sentent le soutien et qu'il y ait de l'aide fraternelle. Qu'il y ait de l'enseignement, de la formation, de l'aide concrète au nom de Jésus. Amen. Je vous rappelle que au début de l'Église, Jacques a été tué lors de la grande persécution. Vous savez ce qu'a fait l'Église quand Jacques a été tué? Elle ne priait pas parce qu'elle n'était pas consciente de la persécution qui était arrivée sur l'Église. Il y en a qui ont été arrêtés, il y en a qui ont été tués. Et ensuite, ils ont arrêté Pierre. Et là, l'Église s'est réveillée. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a prié. Il y a eu de grandes prières, énormément de prières qui sont montées de l'Église pour le salut de Pierre. Et Pierre a été délivré. Amen. Jacques a été tué. On a perdu un apôtre parce que l'Église n'était pas prête et qu'elle ne s'est pas tenue dans la prière, on a perdu un des grands apôtres. Mais un autre apôtre a été sauvé à cause de l'Église qui a prié. Gardons notre appel de la prière. N'attendons pas que la persécution soit là. Il sera temps de prier, mais il est déjà temps aujourd'hui. C'est déjà l'heure. C'est l'heure que l'Église se réveille et qu'elle commence à prier pour ses apôtres, pour ses prophètes, pour ses ministères, pour ses œuvres, pour les églises qui souffrent, pour l'Église persécutée. Il faut qu'elle se lève et qu'elle prie. Qu'elle crie au Seigneur. Que les cris commencent à monter des entrailles de l'Église. Que les cris jaillissent au nom de Jésus. Que les entrailles soient saisies. Que nos entrailles soient saisies pour l'intercession. Qu'un esprit d'intercession descende maintenant dans nos vies. Au nom de Jésus. Qu'un esprit d'intercession, un esprit de prière nous saisisse. Que nous nous réveillions au nom de Jésus. Que nous soyons trouvés vivants. Que nous soyons trouvés vigilants, en train de veiller. Seigneur, ne nous laisse plus endormis. Nous avons dormi. Nous te demandons pardon parce qu'encore jusqu'à aujourd'hui, on dort. On a dormi. Seigneur, l'ennemi nous a bien endormis. On te demande pardon de notre sommeil. Et Seigneur, nous voulons prier comme ta parole dit. Ne nous laisse pas nous endormir du sommeil de la mort. Au nom de Jésus, maintenant, qu'un esprit de vie nous saisisse. Que l'esprit de vie nous saisisse au nom de Jésus. Qu'un esprit d'intercession nous amène à la vie. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas et je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel et les exploits qu'il a fait en ma faveur. Parce que je me suis tenu éveillé. Je me suis tenu sur la tour et je veillais. Je suis monté sur la muraille. Et je me suis tenu à mon poste. Et j'ai écouté. Et j'ai entendu la voix du Seigneur. Et j'ai su comment je devais parler et comment je devais prier. Au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vous conduire juste encore dans un autre petit point. Vous savez que quand j'ai regardé un peu ce qui avait marqué sur la persécution, je n'ai quasiment pas trouvé de verset qui disait « Priez pour ceux qui sont persécutés ». Bien que pourtant l'appel de l'Église pour l'Église est clair. Mais vous savez ce que j'ai trouvé ? « Priez pour ceux qui vous persécute. Et c'est ce que fait l'Église persécutée. Elle prie pour ceux qui les persécutent et elle les aime. Elle les aime. Elle veut nous apprendre l'Église persécutée. Est-ce que tu es capable d'aimer ? Est-ce que tu es capable de souffrir pour le nom de Jésus ? Qu'est-ce que tu as déjà souffert pour le nom de Jésus ? Est-ce que tu aimes ceux qui t'entourent ? Est-ce que tu es prêt à les aimer pour aller et à leur parler, quel que soit qu'est-ce qui risque de se passer ? Est-ce que tu pries pour ceux qui persécutent. Et je pense que j'aimerais vraiment simplement qu'on puisse prier pour des pays où on sait qu'il y a une forte persécution. On va prier pour l'Iran. Parce que je pense qu'on doit répondre à l'appel du Seigneur. Dans Matthieu 5, 44, priez pour ceux qui vous persécutent. Luc 23, 34, Actes 7, 60, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc en Iran, il y a, d'après les chiffres que j'ai lus, il y a 150 000 musulmans qui sont venus au Seigneur. 150 000. Et c'est des gens qui peuvent se réunir qu'en tout petit groupe, très cachés évidemment. C'est 0,3, c'est une petite partie de la population, mais on doit les soutenir, on doit prier pour eux. J'espère que je ne me trompe pas, parce que j'ai oublié le papier où j'avais pris ces notes. Mais il me semble que c'est en Iran. Et on doit prier pour eux. Les églises de maison ont subi une forte répression en 2008. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont arrêtés, interrogés et même battus. On sait ce qui s'est passé dans les rues. Il y a une révolution. Il y a quelque chose en Iran qui se passe. De la même façon que le mur de Berlin est tombé. Vous savez pourquoi le mur de Berlin est tombé ? Parce que l'église s'est mise à prier. Et ça a eu des répercussions politiques. Et le mur est tombé. Il y a des pays où l'Église est en train de prier et des murs vont tomber. Et nous ne devons pas rester à regarder en tant qu'Église, on doit être sur la muraille avec eux. Vous êtes d'accord? Donc j'aimerais qu'on prie pour l'Iran. J'aimerais qu'on prie pour l'Arabie Saoudite, où c'est un des pays les plus fermés a priori, mais il existe aussi une église souterraine. Il existe des chrétiens. On doit prier pour ce pays. On doit prier pour que l'Arabie Saoudite puisse vivre un ébranlement. On doit prier pour ceux qui persécutent. On doit aimer ce pays. Aimons l'Iran. Aimons l'Arabie Saoudite. Et encore juste l'Égypte. Parce que l'Égypte, il y a beaucoup plus de chrétiens. Il y a des choses qui existent en Égypte. Il y a des choses qui se font. C'est, bien sûr, il y a encore beaucoup de persécutions. Mais il y a aussi des choses qui se passent. Et je vous mets encore sur le cœur le Maroc. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des églises. Et simplement, j'aimerais qu'on prie pour ces quatre pays. Priez selon ce que le Seigneur vous dira. Simplement, on les bénit. On les aime. Amen. Amen. Donc l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Maroc. Alléluia, Seigneur, on bénit ces pays. On bénit ces pays, Seigneur. Proclamons que ton amour pour ces pays. Proclamons que c'est des pays que tu aimes, sur lesquels tu as ton regard tout au long de l'année. Seigneur, on proclame que tu fais lever ton soleil sur ces pays. Le soleil de justice se lève sur ces pays. Alléluia, Seigneur. Nous nous tenons à la brèche pour ces pays, Seigneur, que l'Arabie Saoudite puisse entendre le message de l'Évangile. Merci pour les rêves. Merci pour tous les milliers de chrétiens qui se sont convertis parce qu'ils ont eu des rêves de Jésus, des songes. Merci pour eux, parce qu'il y en a qui se sont convertis au travers des émissions satellites. Merci pour Internet. Seigneur, merci parce que le message de l'Évangile est en train de pénétrer ces pays par la technologie et par le surnaturel. Merci Seigneur, que cela augmente. Je te prie que le surnaturel augmente dans ces pays, que les rêves augmentent, que les visites d'anges augmentent, que les visites de Jésus augmentent. Seigneur, tu pénètres dans les maisons. Seigneur, tu vas vers là où les femmes sont seules, abandonnées, Seigneur, à leur sort. Seigneur, tu les visites, tu leur parles. Seigneur, tu parles à des imams. Merci parce qu'il y a des imams qui sont venus demander de l'aide, qui se sont convertis. Merci, Seigneur, tu visites des imams. Seigneur, tu visites des personnages haut placés, des responsables. Merci, Seigneur, parce que tu touches des gens dans les ministères, dans le gouvernement. Seigneur Jésus, en Israël, il y avait la femme de Ponce Pilate qui a eu un rêve. Il y a eu une femme d'un riche intendant qui était aussi chrétienne, qui était disciple de Jésus. Seigneur, merci parce que tu places des personnes, tu places des femmes à des... Tu touches des femmes à des postes importants, à des places particulières, tu touches des hommes. Seigneur, on te prie pour les enfants. Seigneur Jésus, que les enfants soient sauvés. Seigneur, on te prie vraiment pour l'Iran, pour un bon gouvernement. On te prie pour un gouvernement selon ton cœur. Tu vois ce combat dans la rue. Seigneur, on te prie pour un gouvernement selon ton cœur. Un gouvernement juste. Seigneur, on te prie pour l'Arabie Saoudite. Alléluia, Seigneur, c'est un pays qui semble si fermé, si lointain. Papa, papa, pénètre ce pays. Pénètre, papa, par la technologie, par Internet, par les émissions satellites. Pénètre, papa. Rentre dans ces pays. Alléluia, Jésus. On te prie pour l'Égypte. Merci Seigneur pour le travail qui se fait là-bas, pour les chrétiens qui sont dans ce pays. Pour ceux qui se battent, même pour que le nom de chrétien puisse être inscrit sur leur carte d'identité, Seigneur, on te demande de les soutenir. Donne-leur la victoire. Fortifie-les. Seigneur, bénis les œuvres missionnaires, tout ce qui existe là-bas, le témoignage même de ce frère qui parle sur les ondes. Seigneur, bénis ce pays. Bénis l'Égypte. Seigneur, tu as des promesses pour l'Égypte. On bénit l'Égypte au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, on bénit le Maroc. Je me rappelle le cri de Pierre Kranga, le Maroc sera sauvé. Seigneur, on bénit le Maroc, on bénit les églises. Merci parce qu'il y a des chrétiens dans ce pays, des musulmans qui se sont convertis. Merci parce qu'il y a un grand mouvement qui est en train de naître et qui va grandir et remplir le pays. Au nom de Jésus, bénis le Maroc, papa. Si vous avez terminé, je vous propose un tout dernier sujet de prière au Soudan. Vous savez qu'il y a une guerre entre le Nord et le Sud. Et il y a une autodétermination qui va être votée d'ici quelques mois, ou deux, trois ans, je ne sais plus, pour que peut-être le Sud puisse devenir un pays. Et je pense que ce serait vraiment bien compris pour le Soudan, parce qu'il y a de grosses difficultés, de grosses souffrances, mais en même temps, il y a de l'espérance. Et simplement qu'on puisse prier pour que la naissance de la nation se passe d'une façon juste, qu'il y a quelque chose de juste qui s'établisse dans le pays. Vous êtes d'accord? Alléluia, papa. Ben, on prie pour le Soudan. Merci Seigneur, parce que c'est aussi un pays que tu aimes, que tu cherches. Seigneur, on te demande le salut de ce pays. Tu vois en particulier la partie sud où il y a beaucoup de chrétiens. Et Seigneur, qu'il peut y avoir un vote pour l'autodétermination. Et Seigneur, on te demande que tu protèges ce pays, que tu protèges cette partie de pays. Que tu protèges ces chrétiens, nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. Seigneur Jésus, qu'ils ne soient pas obligés de rentrer dans le giron de la partie musulmane, mais qu'ils puissent garder de l'indépendance et une liberté religieuse et de la liberté de foi. Seigneur, dans le nom de Jésus, on te prie vraiment pour un gouvernement selon ta justice dans cette région, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous proposerai juste de savoir qu'il y a, donc pour Portes Ouvertes par exemple, il y a un site qui s'appelle portesouvertes.fr. Vous pouvez aller le visiter, trouver les informations par pays, les actions qui sont faites par cette œuvre, comment vous pouvez vous investir, donc soit par des voyages, il existe des voyages d'intercession, des voyages de transport de Bible, des voyages de visite simplement pour des chrétiens. Il y a des lettres, des personnes à qui on peut écrire des lettres de soutien. Ça touche les gens de savoir qu'ils sont soutenus. Et il y a des fois des prisons où les gens le disent, mais vous êtes connus dans le monde occidental, comment que ça se fait? Parce qu'ils ont reçu des centaines de lettres et des fois des milliers. Et ça a un impact de toute façon. C'est important. Il y a des pétitions auxquelles on peut participer. Il y a une pétition pour l'Iran en ce moment. On peut signer, et ça a aussi une œuvre, écrire à nos ambassadeurs. On peut soutenir bien sûr financièrement aussi, parce qu'il y a beaucoup de projets, des projets de microcrédit, parce que vous savez bien quand dans ces pays, la plupart du temps on perd son travail, on perd son poste. Donc on veut aider à la création d'entreprises. Donc vous pouvez aider de cette façon. Donc je vous propose, en allant sur le site, vous pourrez vous inscrire, vous pourrez recevoir des lettres de nouvelles régulières, selon ce que vous voulez, la façon dont vous voulez vous investir. Et il y a d'autres œuvres qui existent. Hein. Voilà. Ben, je pense qu'on va simplement prier pour clore. Est-ce que quelqu'un veut prier peut-être? Je le fais. Alléluia, papa. Papa, merci. Merci de tout l'amour que tu as pour nous. Merci parce que l'Église est devant toi ouverte. Et tu la vois tout entière. Tu la connais tout entière. Merci parce que tu vois l'Église des nations et tu vois chaque individu. Tu vois chaque papa, chaque maman, chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Tu vois les souffrances de chacun. Seigneur, on te demande que tu augmentes ta présence. Augmente ta présence, Seigneur. Augmente ta présence dans notre pays, augmente ta présence dans les autres pays, augmente ta présence. Augmente l'œuvre de ton esprit, augmente la révélation de ton esprit. Augmente, Seigneur, les rêves, les songes. Augmente, Seigneur, la pénétration de l'Évangile par les ondes. Augmente, Seigneur Jésus, augmente l'œuvre de l'Église. Augmente, Seigneur, la prise de conscience de l'Église. Augmente l'intercession de l'Église. Augmente la puissance d'action de l'Église. Que l'Église devienne puissante en œuvre et en action. Seigneur, augmente la sagesse dans l'Église pour le savoir comment agir. Augmente, Papa, le discernement de toute la stratégie que l'ennemi a pu préparer contre nous. Seigneur, de tout ce que l'ennemi est en train de faire. Augmente la connaissance, augmente la sagesse, augmente, Papa, l'unité. Augmente l'unité entre nous, augmente l'unité entre les églises, augmente l'amour, Papa, dans ton église. Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse vraiment pendant toute cette semaine. Il raccompagne aussi nos frères et sœurs visiteurs. Que le Seigneur vous bénisse.